Quel marathon, enfin je dis marathon, en fait on a sûrement dépassé la longueur réglementaire. Et ce sprint final, ça va les amis?
Moi j'ai pas vu encore la ligne d'arrivée, hein.
Vous savez,
c'est pas terminé.
C'est vrai, vous savez quel jour on est? Non, parce que moi je suis un peu perdu.
J'ai dormi une heure hier, donc ça je vais pas être très fraîche.
Vous avez vu, les journalistes américains, ils ont un bracelet autour du bras avec le nom du jour pour pas se planter à l'antenne.
Quand je me suis levée ce matin pour préparer ce podcast, je me suis dit que j'avais de plus en plus une tête, enfin... physique de radio, quoi, si vous voyez ce que je veux dire.
Tout va bien. Vous êtes très beaux tous.
Alors, 3 jours et 4 courtes nuits avant d'avoir le résultat, mais c'est fait. Joseph Robinette Biden sera le 46e président des États-Unis et nous nous retrouvons sous le soleil devant la Maison Blanche. Ce n'est pas la première fois qu'on vient par ici, mais où d'autres pouvions-nous aller? Donald Trump est encore président pour 2 mois et demi. Et les pancartes, les affiches qui recouvrent la barrière de sécurité ont changé. On voit « loser »,« tu es viré » et autres amabilités, hein, à la place des slogans « Black Lives Matter ».
On reconnaît le « you fired hein, », la fameuse petite phrase de Donald Trump dans sa télé-réalité « The Apprentice hein, », qui veut dire « tu es viré ».
Oui, c'est vrai qu'on voit presque plus de pancartes et de signes anti-Trump que de pancartes en faveur de Joe Biden.
Samedi après-midi, ici, c'était vraiment noir de monde. Là, ça s'est un peu calmé, mais si vous regardez vraiment là sur Black Lives Matter Plaza, il y a encore des centaines de personnes qui viennent se promener et humer encore un peu l'air de la victoire de Joe Biden.
Et sentir peut-être encore un peu l'odeur de champagne, parce que c'est ce qui est différent cette fois-ci. Habituellement, on voit des manifestations de revendications à Washington. Cette fois-ci, l'ambiance était clairement à la fête et ça se poursuit, bien que, comme tu le disais, Grégory, il y a un peu moins de gens aujourd'hui.
Ensemble, nous allons revenir sur cette incroyable semaine et surtout tenter d'ébaucher la suite du feuilleton. Et on l'a déjà dit ici, les scénaristes ne manquent pas d'imagination. Alors avec moi, il y a...
Grégory Philips de France Info.
Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada.
Sonia Dridi, RTBF.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Et Anne Corpet de RFI. Biden, président élu, la fin d'un incroyable marathon. C'est le numéro 28 de Washington DC.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
And this is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election.
Washington, D.C.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Avant d'évoquer cette journée et cette nuit de samedi, je voudrais qu'on revienne rapidement sur les 4 nuits et 3 jours d'attente qui ont précédé. Cette impression hein, qu'on a tous eue dans la nuit de mardi que Donald Trump pouvait l'emporter. Je me souviens, on s'est échangé des messages. Rien ne se passait comme l'avaient prévu les sondages. Même si ce scénario avait été envisagé, c'était celui que Grégory nous avait présenté dans l'épisode précédent. Le scénario catastrophe.
Oui, et j'étais pas le seul à avoir imaginé ça. On a retrouvé une archive. Vous vous souvenez de Bernie Sanders, évidemment le sénateur du Vermont, dont on avait beaucoup parlé pendant la primaire démocrate. Et bien, figurez-vous que le 23 octobre, invité du Tonight Show de Jimmy Fallon sur NBC, il avait quand même bien imaginé les choses.
This is something I worry about. For reasons which I don't have the time to get into tonight, you're going to have a situation, I suspect, in states like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, other states.
Et donc, Bernie Sanders, un peu en Madame Irma de la politique américaine, explique, vous allez voir ce qui va se passer. Il va y avoir des complications en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Wisconsin, à cause des bulletins de vote par correspondance, et qu'on n'aura pas eu le temps de traiter tous. Et il est possible, dit Bernie Sanders, que le soir de l'élection, Trump mène, par exemple en Pennsylvanie. Alors Donald Trump, raconte Bernie Sanders, va arriver, va dire, merci, j'ai gagné, vous avez voté pour moi, c'est terminé, et je ne vais pas quitter la Maison Blanche.
Trump gets on the television, he says, thank you Americans for re-electing me, it's all over, have a good day.
C'est ce fameux mirage rouge hein, dont on parle, dont on a parlé depuis longtemps et qui s'est effectivement produit. Il y a eu ce mirage pendant quelques jours.
Et voilà, et samedi matin, 11h27, les médias américains annoncent le call, comme on dit ici. Joe Biden, président élu, s'affiche sur les écrans de télévision. Et aussitôt, une liesse incroyable dans les rues des grandes villes démocrates, à New York, San Francisco, Philadelphie. Et Washington DC, la capitale, bien sûr, des concerts de klaxons dans les rues et très vite, une foule ravie libérée, hein, qui se retrouve ici.
Oui, moi j'y étais à peu près 10 minutes après l'annonce par les chaînes de télé, hein, de la victoire de Joe Biden, et c'était vraiment extraordinaire. Ça.
Ah, on entend Cheyenne, oui. Parce que Sonia, faut le dire, on est dimanche, ça doit être ton 8e, 10e, 12e jour de travail d'affilée. Elle est venue avec son petit garçon,
voilà,
on est très content.
Peut-être dans le background.
Alors, donc,
et c'est vrai que c'était extraordinaire, on voyait des gens avec les larmes aux yeux qui se jetaient dans les bras l'un de l'autre, et c'était vraiment des scènes de liesse.
Moi, ce que j'aimerais quand même préciser, c'est qu'on est à Washington, les gens effectivement font la fête. Washington, c'est clairement une ville démocrate. Hein.
93% pour Joe Biden, selon les derniers chiffres. C'était 90% pour Hillary Clinton il y a 4 ans. Cette proportion d'appui aux démocrates a donc augmenté ces 4 dernières années.
Une telle liesse populaire dans la capitale fédérale, moi j'avais ce souvenir pour l'élection d'Obama en 2008, la première. Sûr. Et puis il y a 2 ans, ça va vous parler aux Suisses et aux Québécois, la victoire en Coupe Stanley de hockey sur glace, où l'équipe locale avait remporté cette coupe. Et vraiment, il y avait eu pareil des milliers de personnes qui étaient venues comme ça fêter ça dans la rue.
Alors on a tous évidemment ramené une moisson de sons de supporters enthousiastes. Allez, j'ai choisi de vous faire écouter Claude. Claudia et Kess, ils habitent en Virginie et ils n'étaient pas venus en ville depuis 6 mois en raison de la pandémie.
Oh, I'm so excited, democracy works, we won the popular vote and we won the electoral vote.
Joe got it done, I knew this guy could get it done. He's the man. He took out a wannabe king.
On sent l'enthousiasme dans la voix de Claudia qui dit qu'elle est contente que la démocratie fonctionne compte tenu des victoires au collège électoral et au vote populaire de Joe Biden. Et puis Keith qui dit que Joe Biden, c'est le rhum et même qui va jusqu'à dire qu'il a viré un monarque en puissance quand même.
Oui, on a vraiment eu l'impression d'une libération. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient que si Donald Trump avait été réélu, c'était la démocratie américaine qui aurait été mise en danger.
On a beaucoup parlé de ces manifestations pacifiques. Hier, j'étais quand même devant la Maison-Blanche, devant les grilles, et il y avait des gens qui brandissaient la tête de Donald Trump sur un pic quand même. Hein. On est quand même dans ce symbole-là du monarque déchu.
Oui, et puis beaucoup d'Américains, ici en tout cas dans la capitale fédérale, nous ont répété toute la nuit à quel point ces 4 années du mandat de Trump avaient été une source de stress.
Ouais, par exemple, Zach, il avait dans les mains un panneau Black Lives Matter, il était venu là, et puis c'est la première chose dont il m'a parlé.
We've lived the last 4 years in a lot of stress and anxiety.
Cette anxiété, cette peur, pour lui, le plus important, c'est de retrouver une espèce de normalité, mais il y avait vraiment cette anxiété dont il parlait.
J'étais à Wilmington pour le discours de Joe Biden et juste après le feu d'artifice grandiose, hein, c'était un show à l'américaine, j'ai vu une mère et sa fille s'enlacer et j'ai été les voir.
It feels like the country's getting back on track. We were actually planning to leave the country. I could not continue to parent.
Et donc cette mère de famille qui est enseignante me dit qu'elle sent enfin le pays être de retour sur les rails et qu'elle pensait vraiment quitter le pays si Donald Trump était réélu.
Est-ce qu'ils t'ont dit s'ils voulaient aller au Canada? D'habitude, c'est notre pays qui donne un exemple, les gens qui évoquent l'idée éventuelle de quitter les États-Unis.
Alors non, mais c'est vrai que comme elle est enseignante, elle m'a dit en fait qu'elle allait simplement demander à se faire muter.
Alors, tu en parlais, Sonia, juste après 20h, le discours de la victoire tant attendue de Joe Biden.
I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I work as hard for those who didn't vote for me, as those who did.
Et donc Joe Biden qui arrive sur scène en courant, en petite foulée, puis qui dit « Je me suis présenté comme un fier démocrate, mais je serai maintenant un président américain. Je travaillerai pour ceux qui ont voté pour moi, mais aussi pour ceux qui ont voté contre moi. » C'était d'ailleurs très intéressant que le président élu s'adresse directement aux supporters de Trump en les nommant et en disant « Je serai évidemment le président de tous les Américains. »
Et puis la petite foulée de Joe Biden dont
qui est arrivé en courant, là.
C'était aussi pas vraiment un hasard.
Non, évidemment, c'était pour prendre le contre-pied de Donald Trump qui depuis des mois l'accuse d'être un vieillard sénile et qui l'appelle constamment Sleepy Joe, Joe l'endormi. Mais hier soir, il avait l'air plutôt en forme. Alors il y avait aussi sur scène Kamala Harris.
Et c'est un moment historique. Vous savez pourquoi? Évidemment, parce que c'est la première finissante d'une école secondaire de Montréal à accéder à la vice-présidente. Bien sûr, je blague, quoique c'est vrai. Mais Kamala Harris, évidemment, devient la première femme à occuper la vice-présidence des États-Unis. Non seulement ça, mais ce sera aussi la première femme de couleur, la première fille d'immigrant à occuper ce rôle très important au sein du gouvernement américain.
Oui, et d'ailleurs, un détail important, Kamala Harris était vêtue de blanc, c'est un hommage rendu aux suffragettes. Et à Wilmington, justement, il y avait beaucoup d'Afro-Américains et beaucoup de femmes, notamment. J'ai rencontré une jeune femme qui votait pour la première fois.
This is my first year getting to vote, so it's a really exciting thing for me. And seeing someone who looks like me in the White House with the same kind of hair that I have.
Elle me dit que c'est tout un symbole très important pour elle de voir une femme noire vice-présidente, une femme, dit-elle, qui a les mêmes cheveux qu'elle, par exemple.
Et vous savez que si Nancy Pelosi demeure présidente de la Chambre, avec l'arrivée de Kamala Harris, ce sera la première fois dans l'histoire américaine que les deux personnes au haut de la liste de succession présidentielle seront des femmes.
Évidemment, puis au chapitre des premières, on a pour la première fois aux États-Unis un premier, second gentleman.
Oui, il va falloir apprendre à traduire ça. Hein?
Oui, ben ça, on compte sur vous, les Canadiens.
Bon, en tout cas, il s'appelle Douglas Emhoff. C'est donc le mari de Kamala Harris. On l'a beaucoup vu pendant la campagne. Mm-hmm. Et il intègre aussi, évidemment, la résidence de la vice-présidente.
Et quand on se balade dans les rues à la rencontre des manifestants et des électeurs, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, mais beaucoup, notamment des femmes afro-américaines, mais beaucoup de gens vous disent « Kamala Harris a gagné, Kamala Harris entre à la Maison-Blanche ». Il y en a plus pour Kamala Harris que Joe Biden, parfois.
Et au soir de l'annonce de l'élection de Joe Biden, en rentrant chez moi, vous savez, via Massachusetts Avenue...
Bien sûr, sur ton vélo.
Sur mon vélo. Et ben, il y avait 4-5 personnes devant la résidence de la vice-présidence avec des panneaux « Welcome Kamala ». Nous sommes toujours devant la Maison Blanche. Hein, des centaines de personnes continuent d'affluer. C'est un peu la promenade du dimanche.
Hein. Ouais, et tout à l'heure, ça dansait. Il y avait un cours de salsa improvisé. Enfin, il y a vraiment un sens de la fête encore très fort 24 heures après la victoire de Joe Biden.
Dans une ville qui est toujours barricadée. Je trouve que c'est quand même étonnant, hein, ce décalage.
Bon, mais enfin, c'est pas la fête pour tout le monde. Hein, parce que à la Maison Blanche, hier après-midi, en rentrant du golf, Donald Trump a tweeté en lettres capitales qu'il avait largement gagné. Le président n'a pas concédé sa défaite, ce n'est pas une obligation légale, hein, mais c'est la tradition seulement. Le président l'a dit, il n'aime pas perdre.
Et Donald Trump aujourd'hui, il est à nouveau en Virginie en train de faire du golf, il tweet et il golfe, hein, c'est ce qu'il fait en ce moment. Mais la stratégie du président, on l'a comprise depuis quelques jours, c'est une attaque systématique judiciaire au travers de tous les États où il a perdu, où les scores étaient serrés. Il va sans doute attaquer en Pennsylvanie sur le vote par correspondance. Il va attaquer en Arizona, dans le Nevada. Il a demandé de recompter dans le Wisconsin où il y avait quand même 20 000 voix de différence. On n'est pas sûr que ça déboule sur quelque chose de concret.
Et même Scott Walker, qui est l'ancien gouverneur républicain de cet État, disait qu'avec une marge de 20 000 voix d'avance, c'est pas clair qu'un recomptage peut changer la donne. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu recomptage en Floride en 2000, on parlait de quelques centaines de voix. Cette fois-ci, on est dans les milliers et parfois dizaines de milliers de votes.
Oui, et d'ailleurs, on sait qu'il y a des sons de cloche différents à la Maison-Blanche. Il y a certains proches, comme son avocat Rudy Giuliani, qui lui conseille d'aller jusqu'au bout. Et puis, il y en a d'autres, comme Chris Christie, par exemple, un conseiller informel, ou encore son gendre, Jared Kushner, qui essaie de lui faire comprendre qu'il faut peut-être accepter la défaite. Mais bon, on connaît Donald Trump et sa base est très galvanisée. Il le sait, et donc on l'imagine mal, dans les prochains jours, reconnaître la défaite.
Et puis, il y a quelque chose qu'il faut noter quand même, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait comptabiliser tous les bulletins. Il y a des États où ça a pris un peu de retard à cause notamment du nombre des bulletins envoyés par correspondance. Par exemple, on n'a pas encore le résultat définitif en Alaska.
Oui, bon, bah là, on est sûr que ça ira à Donald Trump. Hein.
On n'a pas les résultats complets en Caroline du Nord non plus.
La Géorgie, on n'a pas encore tout compté et où il y aura un recompte sans aucun doute. Et puis, tout ça, ça fait dire aux supporters de Donald Trump que Biden a volé cette victoire, puisqu'on n'a pas encore compté tous les bulletins. C'est ce que dit Debra, rencontrée par mon collègue Valentin Dunat dans le Nevada.
You can't call him a president-elect because the votes are not counted fully. They're not even counted yet.
Et Debra dit, mais non, il n'est pas le président élu parce qu'on n'a pas encore compté tous les bulletins. Quoi ? Vous me dites alors que Biden a été élu illégalement ? Non, ici c'est le pays de la loi et de l'ordre, pour reprendre évidemment un slogan qu'on a beaucoup entendu pendant la campagne. Nous ne sommes pas un pays du tiers-monde.
Et l'idée de fraude généralisée, agitée depuis des semaines par le président, a bien pénétré les esprits dans l'Arizona, où on dépouillait encore ce samedi les bulletins. C'était un peu tendu. Écoutez, Eric, rencontré par Marie Normand, ma collègue envoyée spéciale là-bas.
You want me to believe that Joe Biden got 10 million more votes than Barack Obama did as the first black president.
Eric qui explique que Biden a obtenu 10 millions de voix de plus que Barack Obama, il n'y croit pas. Tout le monde ici pense que Donald Trump est le président légalement élu. Eric qui rajoute qu'il n'est pas un républicain à l'ancienne, il ne va pas se coucher et dire « Ok, c'est bon, on va se rassembler ».
Et cette stratégie républicaine, on peut dire, était à géographie variable selon la région du pays où on contestait les résultats, ou en tout cas le processus électoral, le message était différent. Par exemple, en Pennsylvanie, lorsque Donald Trump était toujours en avance, on demandait de cesser le dépouillement, cesser de compter. Voilà. Alors qu'en Arizona ou dans le Nevada, alors que c'est Joe Biden qui était en avance, mais que M. Trump avait toujours la possibilité d'assurer une remontée, ben là, on demandait de compter tous les votes.
Oui, mais d'accord, mais quand Eric dit « on n'est pas des républicains à l'ancienne, on ne va pas se coucher », c'est pas un peu inquiétant, ça?
En fait, je pense que ce qui est le plus inquiétant, en effet, ce sont les partisans les plus extrêmes de Donald Trump, et on voit que même la famille de Donald Trump tente d'attiser un peu les tensions, puisque le fils de Donald Trump, Don Jr., a parlé de guerre totale. On sait aussi qu'il y a les nationalistes blancs, notamment les membres de l'alt-right, qui sont prêts à en découdre. Hein, donc... qui sont prêts à en découdre, voilà. Et je pense que beaucoup, même au sein de la campagne Biden, craignent éventuellement voilà, des poches de violence dans le pays, sans que ce soit généralisé, mais qu'il y ait des incidents, en fait.
En tout cas, il y a quelqu'un qui se bat avec son biberon.
Et je pense qu'on peut préciser quand même que si on a vu des scènes de tension, des engueulades assez sérieuses dans différentes régions du pays, pour l'instant, il n'y a pas eu de débordement violent.
Non, mais du coup, comment ça peut se passer, la transition? Parce que normalement, l'équipe sortante coopère avec celle du président élu. Ça dure quand même 2 mois et demi, hein?
Oui, normalement, on entre dans cette période où effectivement l'équipe Trump va commencer à travailler avec l'équipe Biden. Concrètement, ça veut dire normalement des réunions organisées à la Maison-Blanche, des transmissions de dossiers, d'informations confidentielles qu'on passe d'une équipe à l'autre. Et j'ai posé la question à Robert Malley, qui a été le conseiller Proche-Orient de Bill Clinton puis de Barack Obama. Lui, il a vécu 2 transitions. La dernière, c'était quand il a remis les clés de son bureau à l'équipe Trump. Et là, il est quand même assez inquiet sur la faisabilité d'une transition propre et claire.
Est-ce que le président Trump va essayer de mettre les bâtons dans les roues et empêcher que cette transition se fasse de façon lisse? Est-ce qu'ils vont refuser de transmettre les dossiers? Est-ce qu'ils vont refuser de briefer l'administration? Si c'est le cas, ça peut vraiment compliquer les choses, parce que ça veut dire que le 20 janvier, 21 janvier, lorsque l'équipe du président Biden prend les rênes, eh bien, ils devront commencer à zéro sans savoir vraiment ce qui s'est passé dans le domaine confidentiel, dans le domaine des opérations secrètes, dans le domaine des engagements qui ont pu être faits mais qui ne sont pas publics. Ça sera beaucoup plus compliqué dans un contexte particulier avec la Covid, avec la récession économique. Si en plus la transition ne se fait pas de façon transparente, ça peut compliquer les choses de façon très très significative.
Et sur cette question de la transition, certains manifestants pour l'instant devant la Maison Blanche, ben voilà, sont patients, mais Daniel par exemple m'expliquait:
at the end of the day, we're just, you know, I don't want to be rash, but we'll just boot them out.
Qu'il ne voulait pas être rude au micro, mais que si Donald Trump ne s'en va pas, il sera dégagé par la foule.
Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les électeurs de Donald Trump, eux, ils vont pas disparaître du jour au lendemain, hein. 70 millions de personnes ont voté pour lui. Record historique juste derrière le score de Joe Biden. Et encore une fois, ça n'était anticipé par aucun institut de sondage.
Et ce qui nous fait dire que Donald Trump n'était pas un phénomène passager en politique américaine. D'ailleurs, quand vous regardez la carte électorale, le président a conservé la plupart de ces fameux districts que Barack Obama avait remportés en 2008, en 2012 et que M. Trump avait ravi aux démocrates en 2016. Comme quoi il y a un intérêt pour le message de Donald Trump là-bas, et il y a aussi une coalition qui est plus diversifiée peut-être que ce qu'on peut avoir l'impression quand on regarde ces rassemblements du président. Regardez par exemple les résultats en Floride. Donald Trump a extrêmement bien fait dans le comté de Miami-Dade, notamment auprès des électeurs hispaniques d'origine vénézuélienne ou cubaine.
Et justement, ma collègue envoyée à Miami, Lucille Gimbert, a rencontré l'un de ses électeurs latinos. Il s'appelle Ismael.
Pienso que Trump es la persona típica americana
Et Ismaël dit, je pense que Trump, c'est l'Américain typique, c'est le businessman, quelqu'un qui a le courage de dire aux autres ce qu'il y a à dire, à la Chine par exemple. Alors beaucoup le trouvent égocentrique, mais moi j'aime ça, c'est un mec qui dit, moi je suis comme ça, je suis Américain, et ça se passe comme ça, voilà, c'est tout.
Et c'est un message qu'on a beaucoup entendu, et je suis certain que c'est le cas pour vous aussi, tout au long de la campagne, de la part de gens qui appuient Donald Trump.
Mais du coup, Sonia, toi, tu penses que Joe Biden va réussir à rassembler l'Amérique, hein? Quels sont ses atouts pour ça?
Alors, c'est vrai que Joe Biden est connu pour être l'homme du compromis. Pendant 36 ans, lorsqu'il était au Sénat, il avait l'habitude de négocier avec les Républicains. Alors, je pense pas qu'il va pouvoir convaincre les personnes les plus extrêmes, mais je crois que pour les Républicains modérés, je pense que à terme, devrait pouvoir réussir à apaiser un peu les choses. Et puis surtout, il connaît très bien les élus républicains. Donc je pense que tout président qui prend les rênes du pays en ce moment, c'est un défi. Hein. La nation est trop polarisée. Mais je pense que finalement, Joe Biden n'est peut-être pas si mal placé pour essayer d'unifier les Américains.
Mais il y a quand même une vraie question qui se pose derrière le discours de Joe Biden qui dit « voilà, je suis le président qui va unifier tous les États-Unis ». Il y a d'ailleurs des gens qui se rappellent bien qu'il y a 70 millions d'Américains qui ont voté pour ce Donald Trump.
We need to understand why a lot of people voted for Trump. We need to understand why this country is so divided.
Et Anesla explique qu'au-delà des mots, au-delà du discours, les États-Unis, les Américains vont devoir faire une véritable introspection, comprendre d'où vient cette haine entre ces deux camps pour vraiment espérer aller de l'avant.
Et sur le plan politique aussi, ça va être compliqué parce que les Républicains ont encore toutes les chances de conserver leur majorité au Sénat.
Toutes leurs chances, t'as raison, mais néanmoins, il y a encore une possibilité que les démocrates gagnent 2 sièges de plus au Sénat. Pourquoi ? Parce qu'en Géorgie, les résultats étaient trop serrés. Il y aura donc un deuxième tour au mois de janvier.
Ouais, c'est une loi spécifique à cet État.
Et si d'aventure ces deux démocrates remportaient leur course sénatoriale, eh bien là, au Sénat, on serait à égalité 50-50 avec, quand il y a égalité, la voix de la vice-présidente, ce qui fait que les démocrates remporteraient la majorité sénatoriale. Et là, évidemment, ça changerait la donne pour Joe Biden pour gouverner pendant 2 ans.
Et il y a déjà eu des réactions parmi les sénateurs républicains qui sont en ce moment à Washington. Bon, Lindsey Graham, on le sait, qui a été réélu allié de M. Trump, a demandé au président de continuer, de ne pas concéder tout de suite la victoire. Mais
il a même offert 500 000 $ de sa poche au fonds de défense de Donald Trump.
Et de l'autre côté, il y a Mitt Romney, sénateur de l'Utah, qui, on le sait, n'a jamais été un grand admirateur de Donald Trump, qui a félicité Joe Biden pour sa victoire en ajoutant ceci.
I want to make sure that we conservatives keep on fighting to make sure that we don't have a Green New Deal.
Qu'il allait continuer à se battre pour défendre les valeurs conservatrices. Donc, il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que M. Biden ait des alliés dans le camp républicain au Sénat s'il a des projets à faire passer, notamment en matière d'environnement, de santé, des réformes fiscales, alors qu'on sait que ça pourrait être des demandes qui pourraient être formulées par la base progressiste du Parti démocrate.
Ben justement, tu parlais de Lindsey Graham et quand même, on voit, on a une époque de polarisation extrême aujourd'hui au Congrès, mais il y a quelques années, Lindsey Graham, qui est très proche donc de Donald Trump, disait « Si vous n'aimez pas Joe Biden, c'est que vraiment vous avez un problème. » Donc on va voir comment la cohabitation se déroule.
Bon, et dernière question, à votre avis, que va faire Donald Trump ? Il va se mettre au golf à plein temps ? Il va pouvoir survivre sans meeting ? À moins que certains parlent déjà d'une candidature en 2024.
Oui, il y a plusieurs scénarios qui circulent. Alors, il y a effectivement un Donald Trump fâché d'avoir perdu en 2020 qui va se représenter en 2024.
Et il aurait la possibilité de le faire. C'est possible pour un président qui a perdu de tenter d'obtenir un deuxième mandat.
Il peut aussi complètement quitter la politique et revenir aux affaires ou à la télévision. Après tout, quand il présentait The Apprentice, cette émission de télé-réalité, c'était pour lui et pour la marque Trump vraiment quelque chose de valeur. Donc peut-être va-t-il retourner à la télévision.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est inquiet parce qu'il pourrait être attrapé par des affaires judiciaires, notamment en ce qui concerne ses impôts.
Alors, puisque c'est désormais la tradition, on a quelques questions d'auditeurs. Benjamin nous demande d'évoquer l'incroyable et improbable, hein, ce sont ses termes, conférence de presse de Rudy Giuliani. Grégory, ah ouais. Ça c'est pour toi.
Alors c'est vrai que ça vous a peut-être échappé, mais samedi à la mi-journée, il y a eu cette conférence de presse, effectivement.
On était tous en spécial Biden.
Effectivement incroyable et improbable, organisée par les avocats de Donald Trump, qui donne rendez-vous à la presse à Philadelphie, au Four Seasons. Vous savez, c'est un hôtel
assez chic.
Une chaîne d'hôtels assez chic. Les journalistes, évidemment, se précipitent à l'adresse indiquée, et ils arrivent en fait dans une zone industrielle. Le rendez-vous avait été donné dans une jardinerie qui s'appelle Four Seasons Jardinerie, située dans la zone industrielle, entre une librairie de livres érotiques et un crématorium.
C'est quand même
pas l'endroit idéal pour organiser une conférence de presse post-électorale. Les journalistes étaient absolument estomaqués. C'est simplement, visiblement, la personne de la campagne Trump qui s'est trompée dans l'adresse et qui a aiguillé toute la presse américaine vers cette zone industrielle improbable.
Mais rassure-nous, il n'y avait pas vraiment une info majeure.
Alors nous, on avait Jordan Davis à la radio-télévision suisse. Il était à cette conférence de presse, mais il n'y a pas eu grand-chose. Rudy Giuliani est revenu sur la guérilla judiciaire qu'il est en train de mener, mais rien de plus.
On entend encore des klaxons de célébration. Toi, Raphaël Bouvier-Auclair, tu as une question qui t'est directement adressée. Elle est posée par Daniela.
Qui nous demande pourquoi, en tant que Québécois, je dis Michigan, alors que vous, collègues européens, dites Michigan. Je n'ai pas d'explication scientifique. On a tendance à franciser le nom des États. On dit Michigan,
Wisconsin,
Boston.
Wisconsin, nous on dit.
Ouais.
Mais je dis Washington, alors pas d'explication. Mais je peux vous dire qu'il y a aussi des auditeurs du Canada qui se demandent pourquoi en Europe vous dites meeting, par exemple, pour rassemblement politique. Alors comme ça, à Washington DC, on va avoir appris un peu plus de vocabulaire transatlantique à nos auditeurs.
Et puis il y a le classique balado, podcast.
Là, on s'est tous mis d'accord.
Voilà, oui, tout à fait.
On s'est tous mis d'accord là-dessus.
Alors Sonia, il y a moi, mes masques, qui demande pourquoi Hillary Clinton a été aussi haïe il y a 4 ans par une partie des Américains.
Et c'est vrai que j'ai couvert la campagne de 2016, j'ai été très vite frappée par l'animosité qu'il y avait dans le pays envers Hillary Clinton et même au sein des démocrates, notamment des jeunes en tout cas qui n'étaient pas très motivés pour voter pour elle. Et en fait, elle avait une personnalité beaucoup plus clivante que Joe Biden, elle faisait un peu plus bourgeois. C'est vrai que Joe Biden a vraiment joué sur son côté classe moyenne et je pense que ça a fait la différence. Hein. Joe Biden paraît quelqu'un plus simple, plus naturel aussi. On reprochait le manque de naturel d'Hillary Clinton. Et je pense que ça explique en partie pourquoi Joe Biden a réussi, même si c'était un candidat par défaut, à mobiliser autant les démocrates derrière lui.
Raphaël, Mike demande, qui sont les valeurs montantes du Parti républicain? T'as une idée?
J'en vois deux, peut-être... Paul Ryan, vous vous rappelez, l'ancien speaker de la Chambre des représentants, lui s'est un peu préservé, hein, il s'est mis en retrait de la scène politique, mais il va sans doute très clairement revenir. Et je pense aussi à cette Nikki Haley, cette ambassadrice de l'ONU, une femme républicaine, ça pourrait être aussi une piste, peut-être le futur du Parti républicain.
Oui, parce que les républicains vont déjà commencer à 2024, on peut aussi penser à Tom Cotton, sénateur de l'Arkansas, et pourquoi pas Donald Trump Jr. Et même, on l'a évoqué tout à l'heure, Donald Trump père lui-même qui pourrait décider de se représenter en 2024.
Et dans la famille, demander la fille. Ivanka aussi a été donnée parfois comme une des figures montantes du Parti républicain.
Moi, j'étais dans le Vermont cet été, il y avait des stickers, des autocollants sur certaines voitures. Ivanka 2024.
Enfin, c'est l'occasion ou jamais, Greg. J'ai une question pour toi. Quel est le titre de la chanson qui a annoncé Joe Biden sur scène samedi et pourquoi ce choix?
Alors c'est très facile, d'abord parce que cette chanson a déjà été utilisée par Barack Obama en 2012 et aussi parce que c'est une chanson de Bruce Springsteen.
Oh.
Ah bien sûr,
oui, évidemment. Voilà. Petites étoiles dans les yeux de Grégory.
Qui s'appelle We Take Care of Our Own, on prend soin de nous-mêmes et incontestablement avec Village People, je trouve que Springsteen a été la bande-son de cette campagne électorale.
Et justement avec ce changement politique aux États-Unis, ça veut dire qu'on va moins entendre la chanson YMCA mais aussi God Bless the USA de Lee Greenwood, la chanson qui introduisait Donald Trump sur scène lors de ces rassemblements.
Voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis et surtout d'avoir patienté parce qu'avec tout ça, on vous livre un épisode avec un peu de retard. On a tous besoin de se reposer. Donc on va voir si on revient la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est pas encore tout à fait fixé. Mais vous inquiétez pas, on ne lâche rien. Alors continuez d'écouter Washington DC, le balado des radios francophones publiques de Washington. Et suivez-nous sur notre fil Twitter. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Cheyenne, tu veux dire au revoir?
Washington DC avec
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Sonia Dridi, RTBF.
Grégory Philips, France Info.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Anne Corpet, RFI.
Cheyenne.
Ah, Cheyenne, t'as été super.
Faut quand même préciser que Cheyenne a été extrêmement sage parce qu'il est venu avec sa maman enregistrer ce podcast. La maman un peu débordée en ce moment avec l'actualité.
Et j'ai entendu, il a dit Washington DC.
Voilà.